VOA Afrique, les infos. À Washington.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 27 septembre 2017. John Linden en direct du studio 9 de VOA Afrique à Washington. Au sommaire ce soir, en Afrique du Sud, des milliers de personnes sont descendues dans les rues pour demander la démission de Jacob Zuma. Le nouveau décret migratoire du président américain continue de faire des vagues au Tchad. L'Union africaine parle, elle, d'injustice. En Côte d'Ivoire, découverte d'une importante cache d'armes et du matériel de communication à Abidjan. La Commission européenne se propose de modifier les règles de l'espace Schengen. Les contrôles aux frontières pourraient être rétablis. Et puis nous retrouverons Nicolas Pineau pour les sports et Blanche Sano pour la Minute Éco. Mais tout d'abord, le journal. Bonsoir à tous. Incompréhension au Tchad après le nouveau décret migratoire du président américain Donald Trump. Les ressortissants tchadiens deviennent indésirables aux États-Unis. Anastasie Tudiech.
Visé pour manque de coopération, N'Djamena se retrouve logé à la même enseigne que des adversaires déclarés des États-Unis comme la Corée du Nord, l'Iran et le Venezuela. L'Union africaine a exprimé sa perplexité face à cette mesure qu'elle qualifie d'injuste contre le Tchad, soulignant le rôle important de N'Djamena dans la lutte contre le terrorisme dans le bassin du lac Tchad, dans le nord du Mali et dans le Sahel. La France a également fait part aujourd'hui de sa surprise face au décret du président américain et espère qu'une solution sera rapidement trouvée. Selon le New York Times, des officiels du Pentagone et du département d'État sont opposés à ce décret au nom des intérêts américains. Cette mesure n'a aucun sens, d'après Herman J. Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines, qui qualifie le Tchad d'allié dans la lutte contre Boko Haram. L'ambassadrice américaine à N'Djamena, Geeta Passy, a déclaré hier que cette décision n'entame en rien les relations d'excellence entre les deux pays.
Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a estimé aujourd'hui que parler des génocides en Centrafrique n'est pas justifié. Le terme avait été employé fin août par l'ex-secrétaire général adjoint de l'ONU, Stéphane O'Brien. Parler dans cette étape de génocide, nous pensons que c'était trop avancé, a dit M. Touadéra lors d'une conférence de presse à Genève, à marge de la 36e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Dans le nord du Burkina Faso, deux gendarmes ont été tués dans l'attaque d'un convoi de travail de ravitaillement en carburant de la mine d'or Inata. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Le véhicule de tête du convoi, escorté par des gendarmes, a sauté sur une mine. Des échanges de tirs ont suivi, mais les assaillants ont réussi à s'échapper. Deux gendarmes ont été portés disparus, puis ont été retrouvés morts. Deux autres sont blessés. Cette attaque est la troisième depuis mi-août. Samedi, une patrouille du groupement des forces antiterroristes a sauté sur une mine faisant sept blessés. Le 18 août, trois militaires ont également été tués dans cette même région du nord lorsque leur véhicule a heurté un engin explosif. Le groupe djihadiste Ansarul, actif dans le nord du Burkina, a revendiqué plusieurs attaques, dont celle de décembre 2016, qui avait fait 12 morts, tous des militaires.
L'armée ivoirienne a découvert une importante cache d'armes à Abidjan, selon une source au sein de l'état-major. Des lance-roquettes RPG, des kalachnikovs, des fusils mitrailleurs, des munitions et des explosifs en quantité ont été saisis mardi dans un gymnase désaffecté d'Antiekoubé. Les soldats ont également découvert du matériel de communication, des fausses plaques minéralogiques, des véhicules administratifs et militaires et au moins 300 treillis. Des badges estampillés Mouvement guerrier pour la dignité et la justice en Côte d'Ivoire ont également été trouvés selon cette source, ajoutant que 4 personnes ont été interpellées et qu'une enquête est en cours. Toujours en Côte d'Ivoire, les agents de santé du plus important hôpital de Boaké, la deuxième ville de Côte d'Ivoire, ont repris le travail aujourd'hui après 2 jours de grève. Ils s'étaient mis en grève pour réclamer le paiement de 2 années d'arriéré de leur prime de gratuité. Cette prime a été mise en place pour compenser l'augmentation de leur charge de travail générée par la gratuité des soins pour les plus démunis, instaurée par le président ivoirien Alassane Ouattara. Environ 300 Togolais ont fui vers le Ghana depuis la semaine dernière suite à la répression des manifestations dans leur pays, a révélé une source officielle ghanéenne. Ces personnes sont arrivées dans le district de Chiroponi, selon Tété Padi, directeur du Conseil ghanéen pour les réfugiés. Le chef de district a déclaré avoir distribué de la nourriture, des nattes, des couvertures et des moustiquaires. La semaine dernière, des dizaines de milliers de Togolais ont manifesté à l'appel de l'opposition pour demander le départ du président Faure Gnassingbé. Le Cameroun a expulsé de force près de 100 000 réfugiés nigérians fuyant les violences du groupe djihadiste Boko Haram, victimes d'actes de torture et d'agressions sexuelles de la part de l'armée camerounaise, selon un rapport de Human Rights Watch publié aujourd'hui. Toujours au Cameroun, l'Assemblée nationale dénonce une tentative de partition du pays au moment où les séparatistes anglophones envisagent de proclamer l'indépendance des zones anglophones du pays le 1er octobre prochain. L'opposant congolais Moïse Katumbi a menacé hier de faire appel à la rue si le président Joseph Kabila ne quitte pas le pouvoir et n'organise pas des élections d'ici au 31 décembre en République démocratique du Congo. Front anti-Zuma en Afrique du Sud. Des milliers de personnes ont défilé dans les rues de plusieurs grandes villes à l'appel de la Confédération syndicale COSATU. Claire Morin-Gibourg.
À Johannesburg, 5000 personnes se sont assemblées pour exiger la démission du président Jacob Zuma et dénoncer la corruption de son gouvernement. Selon la COSATU, 13 manifestations ont eu lieu dans 9 provinces du pays avec, comme cri de ralliement, Zuma doit partir. Au pouvoir depuis 2009, Jacob Zuma est affaibli par une succession de scandales politico-financiers qui plombent depuis des mois la fin de sa présidence, notamment des détournements massifs de fonds au profit de la famille Gupta. Alliée traditionnelle de l'ANC, la COSATU soutient le vice-président Cyril Ramaphosa pour succéder à la tête du parti à Jacob Zuma, qui a pris fait et cause pour son ex-épouse, Kosazana Dlamini Zuma, l'autre favorite de la course.
Un tribunal zimbabwéen a ordonné hier la libération pour vice de procédure de l'opposant Evan Mawarire, détenu pour avoir publié en ligne une vidéo soulignant les problèmes économiques du pays. Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, a enjoint les forces de police de coopérer avec les casques bleus déployés dans le pays et notamment à Djouba, la capitale, lors d'une cérémonie ce mercredi. Le Parlement ougandais a effectué un premier pas en vue de supprimer la limite d'âge pour être élu président, qui permettrait au chef de l'État, Yoweri Museveni, de briguer un sixième mandat en 2021. L'Assemblée a adopté ce mercredi une motion autorisant un député du parti au pouvoir à présenter un projet de loi visant à amender la Constitution. La motion devait faire l'objet d'un vote hier soir, mais la séance s'est muée en empoignade lorsqu'un élu d'opposition a accusé un ministre de l'avoir menacé.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Commission européenne a proposé de modifier les règles de l'espace Schengen en prévoyant la possibilité de rétablir des contrôles frontaliers sur une durée allant jusqu'à 3 ans dans des cas exceptionnels pour s'adapter à de nouvelles menaces comme le terrorisme. Le point avec Solange Niamoulissa.
L'annonce de l'exécutif européen intervient avant l'arrivée à échéance des dérogations provisoires dont disposent 6 pays européens pour effectuer des contrôles à l'intérieur de la zone de libre circulation. L'Autriche, l'Allemagne, le Danemark, la France, la Suède et la Norvège ont rétabli des contrôles aux frontières. La France invoque la menace terroriste pour effectuer des contrôles jusqu'au 31 octobre. Les autres pays font face à l'afflux massif de migrants à la frontière grecque et sur la route des Balkans. Bruxelles estime que les arrivées de migrants en Grèce ont fortement baissé et ses autorisations de contrôle ne seront plus prolongées après le 11 novembre 2017. Le vice-président de la Commission européenne, Frans Timmermans, a admis que les États membres devraient être autorisés à agir en cas de situation exceptionnelle lorsqu'ils font face à des menaces graves qui ne sont pas précisées.
Accueillir plus de 50 000 réfugiés issus directement des pays comme la Libye ou le Niger, c'est l'objectif que la Commission européenne s'est fixé ce mercredi. Elle entend de ce fait offrir une alternative sûre et légale à la périlleuse traversée de la Méditerranée. Ce nouveau cap a été défini le jour même de la fin d'un programme controversé de quotas d'accueil de demandeurs d'asile depuis l'Italie et la Grèce lancé en 2015. L'Italie tente d'apporter sa touche au règlement des crises migratoires. Parmi les initiatives qu'elle lance pour tenter de les résoudre, l'Italie expérimente le partenariat public-privé en se tournant vers les entrepreneurs de la diaspora africaine afin qu'ils créent des emplois dans leur pays d'origine. Les ressources de la diaspora africaine sont largement sous-estimées, estime Marco Santori, président d'un consortium financier établi en Italie. Le président américain Donald Trump et sa majorité républicaine du Congrès ont donné aujourd'hui le coup d'envoi de plusieurs mois de débats pour réformer la fiscalité et baisser les impôts, priorité absolue après l'échec de la réforme de la couverture maladie. Le Kurdistan irakien a voté sans surprise à plus de 92% en faveur de l'indépendance selon les résultats du référendum organisé par cette région autonome, malgré l'opposition du pouvoir central à Bagdad et de nombreuses capitales. La première mesure de rétorsion irakienne a commencé à se faire sentir. Les compagnies aériennes du Liban, d'Égypte et de Turquie ont annoncé aujourd'hui qu'elles suspendaient leur liaison avec le Kurdistan irakien à compter de vendredi à la demande de Bagdad. Le président russe Vladimir Poutine a annoncé la destruction des dernières armes chimiques russes tout en accusant les États-Unis de traîner les pieds pour se débarrasser de ses propres stocks. Le président russe s'exprimait par vidéoconférence avec les responsables de la destruction du dernier stock russe à Kizner. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOAfrique et VOAfrique.com. Place à la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Blanche Sanou.
La compagnie aérienne panafricaine Askai a annoncé un réaménagement de son programme de vol à compter du 1er novembre 2017. Selon l'agence Ecofin, ce nouveau programme va réduire le temps de transit à Lomé de 3 heures à 1 heure et à 45 minutes maximum pour certains vols. Les nouvelles lignes de Banjul, Freetown et Monrovia faciliteront également les vols directs pour les passagers. La compagnie continue à promouvoir l'intégration régionale, le tourisme et le développement de la connectivité entre les capitales politiques et économiques de l'Afrique. Askai dessert 19 villes dans 17 pays en Afrique de l'Ouest et du Centre. Au Sénégal, l'Agence française de développement a mis à la disposition du Sénégal une enveloppe de 21 milliards de francs CFA au terme d'un accord de financement signé par le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, Amadou Ba, et Rémi Riou, directeur de l'AFD.
Un générique qui ne trompe pas, Nicolas Pinault est dans ce studio et c'est pour nous parler de sport. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir John, bonsoir à tous.
On commence tout de suite avec la suite de la deuxième journée de la Ligue des Champions en Europe.
Le Paris Saint-Germain qui s'est offert Neymar pour franchir un cap en Ligue des Champions, c'est le premier test ce soir du Brésilien et sa nouvelle équipe au Parc des Princes contre le Bayern Munich. L'autre choc de la soirée, l'Atlético Madrid face à Chelsea dans le nouveau stade des Colchoneros, le Wanda Metropolitano et ses 68 000 places. Parmi les autres rencontres, Manchester United se rend sur la pelouse du CSKA à Moscou. La Juventus Turin reçoit l'Olympiakos et le FC Barcelone se déplace chez le Sporting Portugal.
Et le Real qui s'est imposé à l'extérieur.
Oui, le Real Madrid a remporté une victoire importante sur la pelouse de Dortmund, 3-1. Cristiano Ronaldo a inscrit un doublé pour son 400e match avec le Real. Aubameyang avait réduit le score pour les Allemands. Dans l'autre match du groupe, Tottenham a écrasé l'Apoel Nicosie 3-0 grâce à un triplé de son attaquant vedette Harry Kane. L'AS Monaco qui a chuté à domicile contre le FC Porto 3-0. À noter le doublé pour les Portugais du Camerounais Vincent Aboubakar. Deuxième victoire en deux matchs pour le Beşiktaş d'Istanbul qui a battu Leipzig 2-0. Et puis Manchester City a mis longtemps avant de faire la différence en deuxième mi-temps. Une victoire 2-0 contre les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk. Naples s'est rassuré face à Feyenoord, victoire 3-1. Et puis match nul, 1-1 de Liverpool sur la pelouse du Spartak Moscou. Enfin le FC Séville, facile vainqueur 3-0 de Maribor.
On jouera également pour la Ligue Europa demain, Nicolas.
Le Milan AC et Arsenal ont l'occasion de conforter leur place en tête de leur poule respective face à deux modestes clubs, pour les Italiens, les Croates de Rijeka et pour les Anglais, les Biélorusse du Baté Borisov. Pour les autres rencontres, la Real Sociedad sera en Russie pour affronter le Zénith Saint-Pétersbourg. Les Italiens de l'Atalanta Bergame vont à Lyon et les Autrichiens de Salzbourg reçoivent l'Olympique de Marseille.
Et pour terminer, Varane prolonge avec le Real.
Oui, le défenseur français de 24 ans a prolongé son contrat au Real Madrid pour 2 saisons supplémentaires jusqu'en 2022. Il imite ainsi le latéral Marcelo engagé jusqu'en 2022 ou encore Karim Benzema qui a prolongé son bail avec le Real Madrid jusqu'en 2021.
Merci Nicolas. Vous êtes sur VO Afrique et vous écoutez Le Monde aujourd'hui présenté par John Lyndon. Place à présent au dossier du jour et on commence par le Cameroun où une organisation de la société civile dévoile les pratiques de monnayage et des recrutements dans les établissements scolaires publics de Yaoundé. Une liste de 15 structures scolaires où ce phénomène a le vent en poupe a ainsi été dressée par l'association citoyenne pour la défense des intérêts collectifs. Le gouvernement prend l'affaire au sérieux et menace de sanctionner les présumés corrompus qui, pour leur part, crient à la conspiration. Le point avec notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Juntap.
Le lycée bilingue de Yaoundé est cité parmi les établissements les plus corrompus de la capitale. 75 000 francs CFA au moins, 150 000 francs CFA au plus, c'est le prix d'une place dans cet établissement pour le recrutement d'un élève en classe de 6e. Le proviseur Stéphane Chanchi parle de conspiration et rétorque. Et
je suis étonné quand on parle de tous ces agents qu'on dit on achète les places. Ça c'est faux. Et quand tu viens dans les salles de classe, il y a les élèves qu'on a recrutés à la base de 7 concours. C'est comme si la personne qui a fait ça ne connaît pas comment on procédait à faire les recrutements dans les établissements publics.
L'association citoyenne de défense des intérêts collectifs dit avoir mené les enquêtes dans les 35 lycées de Yaoundé. Résultat, le monnayage des recrutements a été érigé en règle d'or dans la plupart. Alice Prison, secrétaire permanente adjointe de l'ACDIC.
Si vous allez directement auprès du proviseur, on vous dit nous ne faisons pas ça ici. Mais dès que vous sortez, le secrétaire du proviseur, le censeur vous tient nos discours. Et il y a eu des cas, des élèves eux-mêmes, le proviseur lui dit non, mais tu donnes telle somme. Et c'est ainsi que les informations ont été récoltées. Les informations que le parent donnait étaient tout le temps confirmées auprès d'un responsable. Donner si pour telle classe.
Une fois le classement rendu public, le ministre des enseignements secondaires a brandi par voie de communiqué les menaces de sanctions disciplinaires sévères à l'encontre de toute personne impliquée de près ou de loin dans ces pratiques. Mais pour les élèves, les menaces de sanctions ne suffisent pas car le mal est profond et réel dans les établissements publics de Yaoundé.
Mon grand frère qui devait aller au lycée, on lui a demandé de payer une somme de 40 000 francs pour avoir une place.
Nous étions 4 et pour entrer dans ce lycée-là, on nous a demandé une somme de 60 000 francs pour chacun.
De graves accusations qui interpellent la Commission nationale anticorruption, la CONAC. Armand Véronique Nga, chargé d'études à la CONAC, soutient que cet organe continue à lutter efficacement contre le phénomène en milieu scolaire.
Une fois que la CONAC est saisie des cas de dénonciation de pratiques de corruption, une fois que la CONAC a mené ses investigations et a réuni les preuves contre un tel ou un tel, elle en saisit en retour l'administration compétente et les juridictions compétentes pour que celles-ci mettent en œuvre les sanctions qui sont prévues.
Hasard du calendrier ou pas, la Commission nationale anticorruption vient de boucler à Douala, capitale économique, une caravane anticorruption dans le secteur éducatif. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Et Kabadou avec vous dans Washington Forum ce jeudi, le point sur l'actualité migratoire de l'administration Trump. En janvier, Donald Trump décidait d'interdire le territoire américain aux ressortissants de 6 États musulmans afin de prévenir d'éventuels risques terroristes. Le Tchad, la Corée du Nord et le Venezuela viennent d'être ajoutés à cette liste. Le Soudan vient d'en sortir. Comment interpréter cette mesure ? Comment sortir de cette liste noire ? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, c'est ce jeudi à 19h en temps universel.
Les peuples de la forêt ont décidé de lutter contre l'exclusion et la marginalisation dont ils sont victimes au quotidien. À travers un festival regroupant tous les peuples, la forêt du Cameroun, du Gabon, du Congo et de la Centrafrique, ils cherchent à revaloriser leur culture et se faire connaître au plan international. Un reportage de Joël Honoré Kouam, rendu par Lunel Gaïma.
Au Cameroun, le peuple de la forêt, qui sont en majorité des pygmées, sont marginalisés, exclus au point où leur habitat naturel, la forêt, se trouve menacé de disparition. Les conséquences sur la vie culturelle de ces peuples sont considérables. Nous prenons la route de la forêt du Sud Cameroun. Notre première halte est à Mengenge, dans un campement où vivent recluses quelques familles de pygmées. Les premiers occupants de la forêt n'ont pas la vie facile. Ils sont pourchassés par la tribu Bassa qui veut occuper et exploiter tout leur espace vital.
Regardez où nous vivons. Les Bassa nous ont tout pris au point de nous chasser de nos terres. On n'a plus rien. Même nos enfants ne vont pas à l'école. L'école est très loin d'ici, à 8 km. Comment des enfants de 3 à 4 ans peuvent faire 10 km de marche pour aller à l'école? Et avec l'hôpital, c'est pareil, c'est très loin. On nous demande toujours de l'argent alors que nous n'avons rien. C'est pour cela qu'on se retourne vers nos plantes pour nous soigner. Donc nous ne sommes plus rien, nous n'avons rien.
L'hôpital ne fonctionne d'ailleurs pas. Nous sommes accueillis dans cette esplanade par des chèvres. La marginalisation de ces habitants a un impact dévastateur sur leur culture diversifiée qui tend à disparaître. C'est pour pallier cette situation que le professeur Nkamba a décidé de créer le Festival de Peuples de la Forêt, dont l'objectif est de remettre en valeur cette couche de la population qu'on a trop longtemps négligée.
Nous avons engagé un travail de fond, de valorisation de la culture des peuples de la forêt, du passage du Congo, une culture souvent méconnue, spoliée, délaissée, oubliée, marginalisée, au profit des cultures qu'on qualifierait de cultures électroniques, favorisées par l'avènement des nouvelles technologies et de la télévision. L'édition 2017 du Festival Nkoumoukoua par son thème culture et éducation, gage du développement durable.
Seuls les jeunes et l'éducation, à travers de tels festivals, pourront redonner une lueur d'espoir véritable à ces peuples qui ne demandent qu'à s'exprimer et vivre.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
Les Saoudiennes bientôt autorisées à conduire selon un décret publié lundi soir. Ce décret du roi Salman ordonne la formation d'un organe ministériel consultatif dont l'avis sera rendu dans les 30 jours et précise que la mesure entrera en vigueur d'ici juin 2018 selon l'agence de presse saoudienne officielle. C'est une avancée majeure pour les droits de la femme dans ce pays musulman ultra conservateur du Golfe où les femmes n'avaient jusqu'ici pas le droit de conduire. Kadiatou Traoré a joint à Jeddah un enseignant malien résidant en Arabie Saoudite, Daouda Doumbia.
C'était un combat de femmes pour faire aboutir le droit de conduite. Dans ce sens, le roi a promulgué un décret publié dans les journaux saoudiens, des journaux crédibles comme Saudi Gazette, autorisant et garantissant le droit de conduite aux femmes.
Dans ce royaume ultra-conservateur, les femmes n'avaient jusqu'ici pas le droit de faire beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut dire que c'est une avancée notoire dans la réalisation ou la mise en œuvre des droits des femmes dans ce pays?
Oui, tout à fait. C'est une grande avancée dans le cadre de l'émancipation de la femme, parce que depuis de nombreuses années déjà, on tend à aller vers cette ouverture, mais la lutte des femmes elles-mêmes et aussi beaucoup d'autres soutiens qu'elles ont de la part d'une certaine catégorie d'hommes, une certaine catégorie de la société, évoluée, très évoluée d'ailleurs, qui tend à sortir un peu du conservatisme, s'il faut le dire, mais pour aller vers une émancipation intégrale de la femme.
Quel constat peut-on faire de la situation de la femme aujourd'hui en Arabie Saoudite?
En effet, il y a eu d'autres décisions importantes et très concrètes, telles que le droit de vote et le droit d'être éligible. Aujourd'hui, les femmes sont éligibles dans les élections locales. Elles ont le droit de voter et elles ont le droit aussi de se présenter comme candidates. C'est ainsi qu'on voit au sein des municipalités des femmes élues dans les parlements municipaux.
Daouda Doumbia, enseignant malien résident en Arabie Saoudite.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Le salon professionnel du tourisme et des voyages se tient actuellement à Paris, le Sénégal, dont 30% des visiteurs viennent d'Europe, y prend part avec l'espoir de tirer son épingle du jeu. Et qui Abadou a joint sur place le ministre sénégalais du tourisme, Maman Baye Niang.
Ce salon-là est très important pour nous parce que pratiquement 30 à 40% de nos touristes viennent de la France, de l'Europe francophone.
Le gouvernement, en tout cas, a mis le tourisme au rang des secteurs prioritaires du plan Sénégal émergent depuis 2014. Pourquoi ce choix?
Il y a des aspects économiques. Il ne faut pas oublier que le tourisme, c'était 4 à 5% de notre PIB. Et étant donné que le président de la République a pour objectif 7% de croissance en 2017 et qu'actuellement on est vers 6,7%, nous pensons que si nous boostons le tourisme, nous pourrons atteindre facilement ces 7% en 2017.
Pour booster le tourisme, justement, il y a plusieurs mesures, oui. Notamment il y a le retrait des visas. Avant, il fallait un visa pour se rendre au Sénégal. Et il y a aussi le côté sécuritaire avec de nombreuses zones, de nombreuses régions qui ont été sécurisées, notamment la Casamance qui n'est plus dans la liste noire.
Oui, c'est grâce aux efforts du président de la République qu'on en est arrivé à ce stade-là. Et ce n'est pas seulement sur l'aspect sécuritaire qui est très important et déterminant. Aussi, à part le retrait des visas aussi, il y a d'autres mesures, c'est-à-dire les investissements sur le tourisme en Casamance ont été défiscalisés sur 10 ans. Donc d'ici 10 ans, si un investisseur a envie de financer dans ce secteur en Casamance, il y a des facilités. C'est un environnement agréable à vivre, ça a un décor paradisiaque, ça a de la plage, il y a de la verdure. Donc il y a des atouts qu'on peut mettre en valeur en Casamance, c'est ce qui explique cette discrimination positive du président de la République par rapport à la Casamance. Et notamment, les problèmes de sécurité ne sont plus d'ordre du jour.
Par rapport au retrait des visas, est-ce que depuis qu'il y a ce retrait de visas, il y a plus de visites au Sénégal?
Avec le retrait de ces visas, nous constatons naturellement une amélioration du nombre de touristes au Sénégal.
Quels sont les chiffres?
Si je vous dis que nous passons de 700 000 à 1 200 000 actuellement et que nous visons 2 millions en fin 2017, je pense que ces chiffres-là parlent un peu. Donc il y a eu des efforts et des facilités qui ont été créées sur toute la chaîne de valeur. On ne peut pas se limiter seulement au tourisme balnéaire. Il y a des sites qui sont en cours d'aménagement, notamment à Pointe-Sarène, les îles du Saloum qu'on peut visiter, la mangrove. Il y a aussi Modjen qui est vraiment un endroit paradisiaque qui sera aménagé dans les prochains mois. Ça, c'est pour plus diversifier nos possibilités, mais surtout monter notre capacité d'accueil.
Mam Baye Niang, ministre sénégalais du tourisme.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, international music, la musique internationale de partout. Comédie, country music. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 2633. C'est au 001 202 205 2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
C'est avec cette musique d'Yvonne Chaka Chaka qu'on met fin à cette édition du Monde Aujourd'hui, mise en onde par Georges Léonard Sagno. Alfredo Santos était à la console. Présentation John Linden. Merci pour votre fidélité au programme de VO Afrique. L'actualité en continu, c'est sur la page Facebook de VO Afrique et sur voafrique.com. Excellente soirée à toutes et à tous.